BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On vous accueille comme chaque jour pour BFM Patrimoine. Ce sont 2 heures qui vous sont consacrées pour que vous puissiez gérer au mieux votre argent, votre patrimoine. Et on commence chaque jour par le suivi des marchés. C'est Antoine Larigauderie que l'on retrouve au siège de Euronext à La Défense. Bonjour Antoine. Les marchés, une nouvelle fois, j'ai envie de vous dire, quand on se retrouve à 10h, on hésite sur la conduite à tenir.
Bon, on hésite, mais vous avez vu à quel niveau on est ? Allez, 6667. Oh, on l'a loupé d'un point. On y était juste là. Plus 0,13%. Le CAC 40, effectivement, un petit peu indécis et qui est sur ce seuil qui nous plaît bien. L'Eurostock 50, plus 0,11. Plus 0,12 pour le DAX à Francfort. On va se dire globalement que c'est une bonne chose qu'on arrive à maintenir une tendance à peu près équilibrée sur le CAC 40 parce que on a des signaux très volatiles, très en dents de scie. Regardez les courbes intraday d'hier sur le CAC 40. On reste quand même sur des séances un petit peu instables. On sort de 4 séances de baisse consécutives du côté du marché parisien, 5 séances de baisse du côté de Wall Street. Un Nasdaq qui signe son pire début décembre depuis 1975. Donc on a des signaux d'instabilité des marchés. En cette fin d'année, il y a peut-être un petit peu moins de liquidité et ça commence à se sentir parce que moins de liquidité, ça donne des mouvements un petit peu plus brusques et des ajustements un petit peu plus violents. On l'a vu sur le pétrole en début de semaine et ça se poursuit. D'ailleurs, si vous regardez là, les cours du brut, on est à nouveau sur les plus bas de l'année. Hein, pour le brut léger américain notamment à 72,74. Le Brent de mer du Nord à 77,75. Il y a une vraie grosse pression à la baisse maintenant sur le pétrole qui est plus technique et liée au fonds d'investissement qu'autre chose, hein, puisque du point de vue de l'offre et de la demande, on reste sur le constat de l'OPEP la semaine dernière. Mais voilà, malgré tout, on a des marchés qui se tiennent un petit peu, et ça, c'est plutôt une bonne chose, alors qu'encore une fois, il y a des sources d'instabilité un petit peu partout. Alors, à noter quelques mouvements de marché particulièrement spectaculaires. On a Derichebourg, tiens, qui gagne 12%, 5,86€, leader du SBF 120, Derichebourg, qui a tout simplement publié les meilleurs résultats de toute son histoire, de son exercice décalé 2021-2022. On a aussi une reprise des cotations en fanfare d'OL Group, hein, la holding de tête de l'Olympique Lyonnais. Je dis reprise des cotations parce que le titre a été réservé en début de séance après l'annonce de l'extension des négociations avec le groupe Extor pour un rachat. Alors cette fois, il n'y a pas de date limite. L'Olympique Lyonnais dit que ça prend bonne tournure. Donc du coup, le titre reprend 23,4%. On est à 2,69€. Sinon, on a des mouvements un petit peu moins spectaculaires, mais à noter quand même Elior, hein, en bonne forme. Plus 3,5% à 3,02€ sur le SBF 120. Dassault Aviation, plus 2% à 157,20€. Les titres à la baisse sur l'indice large. On a Virbac qui perd 2,8% à 239€. Valourec, moins 2,81€ à 10,20€. Et puis, sur le CAC 40, c'est ArcelorMittal qui squatte la première place du palmarès. Plus 1,98€ à 25,75€. On a Total Energy qui se reprend un petit peu. Le titre a pas mal souffert de cette pression à la baisse sur les cours du pétrole ces derniers jours et gagne 1,36% à 57,30€. Airbus Intercal plus 1,85 à 110,40€ à la baisse. Bouygues moins 25, 29,13. Orange moins 64, 9,18. Et Eurofin Scientifique moins 1,90, 64,18. Le CAC donc plus 0,05%, 6663 points. Et du côté de l'euro face au dollar, 1,0523. Cédric.
Merci Antoine. Larigauderie, tout de suite l'info éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, le gouvernement prolonge les aides à destination des PME pour les aider à faire face à l'explosion des coûts de l'énergie. Jusqu'à présent, l'État prenait en charge 20% de la facture d'électricité. Ce matin sur RMC, Bruno Le Maire annonce une aide supplémentaire, le maintien du guichet énergie sur l'année 2023, ce qui allégera la facture à hauteur de 35%. On l'écoute.
Pour répondre à cette demande et cette inquiétude de toutes les PME qui consomment beaucoup d'électricité, il y aura donc cet amortisseur, 20%, et nous maintiendrons le guichet qui existe aujourd'hui au 1er janvier 2023. Ça représentera un allègement de la facture, cette fois jusqu'à 35%.
Je voudrais qu'on se mette un tout petit peu à la place de celui dont vous imaginiez le scénario. Il voit sa facture passer de 1000 à 4000€. À la fin, il paiera combien ?
Il va déclarer sa facture au guichet de manière très simple au 1er janvier 2023 et sa facture sera ramenée à 2600€.
Ça veut dire
35%
qu'à la fin,
en moins.
Toujours à propos d'énergie, RTE temporise. Il n'y a pas de risque de coupure d'électricité d'ici la fin de l'année. Déclaration du directeur exécutif du gestionnaire du réseau. Pour ce qui est de l'an prochain, si tout le monde fait des efforts, rien n'est écrit d'avance. La CNIL inflige 300 000 euros d'amende à Free pour non-respect des droits des personnes et de la sécurité des données de ses utilisateurs. La sanction rendue publique ce matin a été prononcée le 30 novembre dernier. Une nouvelle licorne est née. United, fintech spécialisée dans le crédit à la consommation en ligne, lève 60 millions d'euros, valorisant l'entreprise plus de 1 milliard d'euros. Charles Aigli, le cofondateur de United, est l'invité ce soir de Tech & Co à partir de 20h10. Autre levée de fonds, Carmat a annoncé une augmentation de capital de 31 millions d'euros. Elle va lui servir à monter en puissance dans la production de ses cœurs artificiels, production qui a repris le mois dernier. Le rachat de l'OL joue les prolongations. Un nouveau report, le troisième, est accordé au milliardaire américain John Textor, mais cette fois, OL Group fait état de progrès vers une finalisation. L'opération est estimée à 800 millions d'euros. À noter, parmi vos rendez-vous de la journée sur l'antenne de BFM Business, l'émission spéciale à partir de 18h, Good Evening Business est en direct de Lyon, en plein cœur du centre commercial The Village, où il sera question évidemment de Noël et de consommation, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie, on vous retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre les évolutions de cette actualité économique. Et nous, on s'intéresse à vos placements en commençant par une plongée dans la côte parisienne.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Sébastien Féjean nous attend chez ID Midcaps. Bonjour Sébastien.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Vous nous proposez un focus sur S2I. On commence par rappeler un peu qui est S2I.
Oui, alors S2I, c'est une société qui opère à la fois dans le conseil en technologie, mais également donc à une partie de son activité qui est liée donc aux services d'informatique, donc classiquement ce qu'on appelle aujourd'hui une ESN. Et en fait, on voulait revenir un peu sur la valeur parce que on a eu une publication pour le premier semestre qui a été assez remarquable. Et alors c'est vrai qu'évidemment toute la question porte sur ce qui va se passer l'an prochain, puisque si récession il y a, il est évident que les acteurs de l'informatique pourraient être impactés.
Justement, on commence peut-être par un petit état des lieux à la lumière des derniers chiffres publiés par le groupe.
Oui, alors en fait déjà la croissance a été assez impressionnante au premier semestre, hein, plus de 30% en organique. Alors donc on a une croissance qui a été assez forte en France, plus 13%, mais c'est surtout l'international et notamment les importations en Europe de l'Est qui ont fait de très très bonnes performances. Et tout ça a permis également de tirer un peu la marge vers le haut. Alors on a une marge opérationnelle qui est restée stable, mais à un niveau qui est relativement élevé, puisque 9,5% c'est assez bon pour le secteur.
Voilà donc pour l'état des lieux. Alors vous nous proposiez, vous nous disiez que l'intérêt c'était d'essayer de deviner ce qui va se passer à présent. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives ?
Alors en fait, le groupe a déjà indiqué que pour le moment, et comme beaucoup d'acteurs du secteur, on ne perçoit pas de ralentissement, mais c'est pas parce qu'on ne perçoit pas que le ralentissement ne va pas se matérialiser. Donc en tout cas, pour le moment, la direction reste assez confiante, sur le fait qu'elle soit en mesure de pouvoir extérioriser une croissance organique de 15% au troisième trimestre. Donc ce qui est quand même, encore une fois, très supérieur à ce que le marché actuellement, le secteur plutôt connaît. Et ensuite, on a évidemment l'incertitude pour ce qui concerne l'an prochain, et notamment puisqu'en fait la société, comme vous l'avez compris, opère en décalé, et donc là-dessus, c'est un peu le grand mystère. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde les exercices compliqués qu'on avait eu en 2009 évidemment en 2020, la décroissance organique de S2I avait été assez limitée, puisque ça avait été 1,5 en 2009, et en 2020 on avait eu quand même une croissance qui avait été positive.
Voilà donc quelques idées à avoir sur ce dossier S2I. Après, il faut aussi regarder un petit peu le parcours du titre, sa valorisation. Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Écoutez, donc sur l'exercice 2022-2023, on a un titre qui se paye quand même avec une décote assez notable par rapport à ses comparables cotés. Hein. Donc, on pourra mélanger des sociétés qui opèrent dans les services informatiques comme Aubay, mais également évidemment intégrer des comparables beaucoup plus directs comme Assystem ou Alten. Et donc, vous avez déjà une décote qui est assez importante. Et ensuite, vous avez également le fait que facialement, la société se paye avec fondamentalement des multiples de valorisation qui sont relativement faibles puisqu'on est à 0,8 fois la VE sur donc la valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires et un PER de 11,8, ce qui est vraiment assez faible. Donc évidemment, alors si on anticipe pas un atterrissage, on va dire musclé pour l'exercice 2023-2024, il est évident que ce sont des multiples de valorisation qui constituent une opportunité d'investissement.
Du coup, votre recommandation est à l'achat, votre objectif de cours ?
54 euros, parce qu'on pense qu'encore une fois, le titre n'est pas encore une fois valorisé à la hauteur de ses fondamentaux.
Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Féjean, ID Midcaps, qui nous a éclairé ce matin le titre S2I. Le marché parisien, lui, fait un petit peu de surplace, légèrement dans le vert, plus 0,13%, 6669 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Allez, on va parler conjoncture en retrouvant depuis Saxo Bank, Christopher Dembick. Bonjour Christopher.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous ce matin. La semaine prochaine sera marquée par des réunions de banque centrale. Il y aura notamment la Fed et la BCE. L'occasion de faire un petit peu un preview, comme on dit en bon français, sur ces deux réunions. Un point sur les banques centrales. Par laquelle des deux voulez-vous commencer ?
Allez, on fait la BCE, c'est peut-être le plus simple, on va dire.
Alors débat. Allons-y si vous trouvez la BCE simple.
sur la BCE, à minima, je pense que l'enjeu de la hausse de taux est bien balisé. C'est-à-dire, on a eu des échos et des confirmations par une myriade de membres, y compris Christine Lagarde, qu'on était plutôt sur l'optique de 50 points de base. Donc le débat va pas être trop à ce niveau. En revanche, je pense que le point d'attention qui va être intéressant pour l'année 2023 et qui sera notamment essentiel certainement en termes d'amplitude, d'évolution des marchés financiers, est-ce qu'on aura justement ce rebond des marchés financiers qu'on espère, ça va être de savoir en termes d'évolution du bilan de la BCE. À mon avis, c'est là où il y aura les marqueurs les plus importants. Il faudra savoir si la BCE nous donne un peu des indications à cet égard, puisque foncièrement, savoir quel va être le taux terminal du côté de la zone euro ou même d'ailleurs aux États-Unis, c'est pas si essentiel que cela. Je pense que le bilan, en tout cas le dégonflement du bilan, va avoir un impact beaucoup plus important sur l'évolution des places boursières, donc ça va être vraiment le point d'attention. Et puis bon, l'autre élément, c'est bien sûr la mise à jour des projections macroéconomiques pour 2023. Bon, on n'attend pas grand-chose à cet égard, et peut-être juste la seule question, est-ce que la BCE va s'aligner sur le consensus de marché, à savoir qu'il y a quand même une large proportion d'intervenants du marché qui considèrent qu'on est sur un scénario de récession, récession faible, certes en zone euro en 2023, mais c'est quand même l'élément à prendre en considération.
Donc ça c'était simple, c'était la Banque Centrale Européenne. On passe à la Fed maintenant, là c'est plus compliqué, donc vous sous-entendez ?
Un peu plus compliqué, déjà juste sur l'ampleur de la hausse des taux. Il y a un débat, est-ce que ce sera 50 points de base, est-ce que ce sera 75 points de base ? On a bien sûr eu...
On a quand même eu les indications de Jerome Powell, ça a l'air d'être plutôt 50, non ?
Alors, oui, mais vous avez eu quelques membres au quiche du FOMC qui laissent entendre que c'est peut-être pas suffisant. Et force est de constater que l'économie résiste plutôt bien. Alors, bien sûr, on va avoir...
Ce sont les chiffres de l'emploi qui ont mis le bazar un peu ?
Bah, complètement, exactement. Vendredi dernier, quand vous voyez la hausse du salaire moyen aux États-Unis, ça va être un tout petit peu compliqué de se dire que c'est suffisant, peut-être 50 points de base. Donc ça ouvre la porte quand même à une action un peu plus importante. On a eu, je rappelle, un 5,1% d'hausse des salaires moyens. Donc c'est massif, alors qu'on s'attendait à un certain stade que le marché de l'emploi ralentisse. Donc à mon avis, il peut y avoir un débat, même s'il y aura peut-être pas trop de surprises. Là encore, le taux terminal sera dans tous les cas plus élevé que ce qui était anticipé. Je pense que ça va être un élément à prendre en considération. Et peut-être qu'à l'inverse du côté européen, où j'ai assez peu accentué sur le taux terminal, là on aura peut-être besoin d'indications pour justement savoir à quel point la Fed anticipe que l'inflation sera un problème en 2023.
Justement, cette réunion, notamment de la Réserve fédérale, Christopher, est-ce que finalement l'enjeu c'est peut-être plus les indications, les informations cruciales qu'on pourrait avoir sur la trajectoire des taux pour 2023 plus que les 25 centimes de débat de la prochaine réunion ?
Complètement. Finalement, ça changera assez peu la donne. Dans tous les cas, finalement le marché, c'est qu'on est sur une optique très nette de durcissement des taux. 25 points de base, ça n'a jamais changé foncièrement la situation. La question, ça va être combien de temps on va voir ce processus de hausse de taux. Et là, ça va bien sûr dépendre de quelle est la vision en termes d'inflation de la Fed, et même d'ailleurs en termes de dynamique macroéconomique. Quel va être le niveau du taux terminal, à part savoir effectivement que probablement ça va être encore ajusté à la hausse, et on a besoin un peu de visibilité à cet égard. Donc c'est plutôt la trajectoire, on va dire, pour les trois, si on est très optimiste, six prochains mois, que la Fed va pouvoir essayer de nous donner, en tout cas certaines lignes directrices qui vont beaucoup plus compter effectivement que cette éventuelle amplitude entre 50 et 75 pour la semaine prochaine.
Merci beaucoup Christopher.
Merci,
Christopher Dembick, Saxo Bank, qui nous accompagne chaque jeudi pour prendre le pouls de cette conjoncture et de ces grandes questions macroéconomiques. Bonne journée Christopher. Le marché parisien, lui, était à 6660 points du côté des devises. L'eurodoll 1,0518.
Votre rendez-vous avec Empruntis, courtier en crédit et assurance. Empruntis.com, 160 agences partout en France.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
Et on accueille dans la vie IMO Christophe Capelli. Bonjour Christophe.
Bonjour.
PDG de Capelli. On va parler VEFA et Indivision, ou VEFA en Indivision. Enfin, on va d'abord rappeler les termes.
Ouais.
Qu'est-ce que VEFA ?
Alors VEFA, vente en l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire, en fait, vous faites l'acquisition d'un bien immobilier, un bien neuf. Lors de la construction de ce bien, le promoteur va vous appeler des fonds. Donc ça veut dire que du départ, vous signez un acte. Donc vous devenez pleinement propriétaire. Et on va dire que, en tout cas, vous devenez propriétaire et, entre guillemets, pleinement propriétaire le jour où vous avez soldé l'entièreté du prix. Donc plus le chantier monte, plus le promoteur vous appelle les fonds et au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous arriviez au fameux 100% du prix de vente.
C'est ce qu'on appelle vulgairement la vente sur plan.
C'est une vente sur plan, exactement.
Qu'est-ce que l'indivision ?
Ah, l'indivision. Alors, l'indivision, c'est un... En fait, une indivision, vous pouvez l'avoir en famille, dans tous les
pays.
C'est
d'ailleurs le plus courant, enfin, dans l'imaginaire populaire, c'est le plus courant.
C'est le plus courant, c'est-à-dire que vous avez un héritage, vous avez hérité de vos parents d'un bien, frère, sœur, peu importe. En tout cas, chaque bout d'une wari, d'accord, va avoir la détention d'un bien. Donc jusque-là, phénomène normal, voilà, et les gens décident de rester ou pas ensemble dans cette indivision.
Mais ça ne vient pas que d'un héritage, on peut le décider, c'est ça ?
Exactement. C'est là où les choses peuvent devenir extrêmement intéressantes, et notamment dans les placements immobiliers. C'est-à-dire que aujourd'hui, on tend, en tout cas nous, certains opérateurs, tendons à proposer à nos clients de rentrer dans des indivisions. Vous avez différentes formes. Vous avez le choix, aujourd'hui, dans vos investissements immobiliers, vous achetez seul de la pierre.
Bien sûr.
Vous achetez de la pierre papier, FCPI, SCPI et autres. Voilà. Eh bien, c'est un peu une alternative. C'est-à-dire que vous n'avez pas le budget pour acheter un bien dans un endroit...
C'est-à-dire quoi ? C'est un peu comme du démembrement ?
C'est pas du démembrement dans le sens où vous êtes pleinement propriétaire. C'est-à-dire que vous avez l'usufruit et la nue propriété en même temps.
Donc, c'est-à-dire qu'on peut acheter en VEFA, donc sur plan...
Un bout.
Un bout à plusieurs.
Un bout à plusieurs, exactement. Donc vous prenez par exemple un appartement qui va valoir 1 million d'euros. Bon, bah, en termes de placement financier, c'est lourd pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, puisque on va dire globalement c'est 250 à 300 000. Vous savez un peu l'investissement moyen. Bah là vous prenez 4 bouts à 250.
Et vous avez le droit d'aller dormir dans les toilettes, quoi.
Oui, mais vous alternez.
C'est sympa.
C'est l'avantage d'être à quatre, c'est que voilà. Mais
non, mais donc justement, comment ça se passe ? C'est-à-dire que c'est de l'investissement, c'est-à-dire que
c'est de l'investissement. C'est en fait c'est une alternative à la pierre papier, sauf que là vous avez vraiment la pierre. Donc vous n'avez pas les moyens aujourd'hui. En fait, quand vous faites souvent une SCPI ou une FCPI, c'est quoi ? C'est un des intérêts, c'est de vous dire j'ai pas le budget pour aller acheter un bien seul, donc j'achète de la pierre papier avec du rendement. Ben là en fait, on convertit la pierre papier en pierre.
Mmh.
Voilà.
Et du coup, comment est-ce qu'on le finance ? Parce que si j'arrive chez mon banquier et je dis « Ouais, voilà, je voudrais acheter le quart d'un appartement,
voilà.
Donc il faut me filer le quart d'un prêt. »
Ouais.
Non, enfin voilà, et comment ça se passe ? Comment on le finance ?
En fait, ce sont les deux points essentiels. Vous avez tout à fait raison de soulever ça. C'est un, comment je le finance, et deux, comment ça se gère demain, parce que je ne suis plus seul à prendre les décisions.
Oui, c'est ça.
Voilà, ce sont les deux points essentiels. Donc déjà... Il faut imaginer que souvent, on va aller sur un produit qui a un peu plus de qualité. Quand je dis qualité, il n'y a rien de... Je galvaude pas le produit à 250 ou 300 000 en périphérie, en Pinel. Mais vous prenez par exemple notre opération dans le 15e. Donc on est en train de lancer ça. Donc, vous allez avoir un appartement avec la vue sur la tour Eiffel, 1 million d'euros, et vous allez être 4 à acquérir. Donc, en fait, on va constituer une sorte de société civile, d'accord, qui va détenir ce bien, et vous avez 4 personnes qui vont venir.
Ça veut dire que c'est pas moi, entre guillemets, qui suis obligé de chercher 3 copains.
On vous gère tout.
J'arrive et bonjour Christophe.
Exactement. Je suis porteur j'ai cette envie de devenir propriétaire ou
copropriétaire. J'ai 250, j'ai 300 000.
Alors, j'ai même pas forcément 250, j'ai potentiellement 250, voilà. Puisque je vais aller voir ma banque derrière. Et nous, on leur gère tout. C'est-à-dire qu'on dit, on va prendre un cabinet d'avocat, cabinet d'expertise comptable, vous constituez la structure et on va y inscrire une convention qui dira que les 4 personnes, d'accord, vont s'adresser à la même banque, puisque la banque, à un moment donné, elle a besoin de mentir le bien.
Bien sûr, évidemment. Voilà.
Et puisque chacun a, à un moment donné, une obligation. Mais l'avantage de faire ça, de constituer cette structure ad hoc qui est commune aux gens, c'est que, alors, il y a une obligation de lien, et un avantage, c'est qu'il y a une transparence. Notamment quand vous faites du loueur meublé non professionnel. C'est-à-dire que nous, typiquement, dans ce programme, on dit, on va vous faire du loueur meublé non professionnel, on va vous
Donc
le garantir.
En fait, c'est une opération clé en main que vous...
On vous le garantit. Posez. Ouais. Parce qu'on prend les assurances nécessaires, on va vous donner du 3,5%, et dans le temps, si par exemple vous en avez un des 4 qui souhaite sortir, vous aurez en plus la possibilité de l'acheter. Et s'il y a 10 ans ou 15 ans, tout le monde envisage dans le temps de sortir, mais pas vous, vous serez propriétaire dans 10 ans ou 15 ans en ayant quand même eu du rendement, un appartement avec la vue sur la tour Eiffel.
Bon, mais ça veut dire aussi, là on a parlé du financement, donc tout le monde dans une seule et même banque, donc presque, c'est vous qui choisissez la banque, quoi, en fait, finalement.
Sauf s'il y en a un des 4 qui a une super idée et qui l'amène et les 3 autres suivent.
Mais les 4 ne se connaissent pas forcément.
Mais ils se connaissent pas. Ouais. Voilà. Donc
nous, notre but. Vous faites aussi, entre guillemets, courtier. Enfin, je veux dire...
En fait, notre but, c'est de faciliter la tâche aux gens.
Bon, donc, OK. On l'a financé et vous nous l'avez vendu. Jusque-là, tout va bien.
Tout va bien.
Mais vous nous avez dit, je garantis 3% au chef. Enfin, c'est-à-dire que vous vous occupez de la location aussi, parce que sinon, à 4 qu'on ne connaît pas, se mettre d'accord sur à qui on loue,
Nous, ce qu'on propose, c'est que ce soit déjà d'avance régi, entre guillemets, par un opérateur qui va s'occuper des locations, qui va garantir la vacance locative et autres. Il faut, sans avoir une connotation négative, on veut pas te laisser trop de choix, entre guillemets, aux gens, puisque à 4, on a toujours une décision un peu différente.
Oui, je suis d'accord.
Et le but, quand même, c'est d'arriver à un 3 ou 3,5, enfin, au rendement qui était prévu. Voilà. Et après, dans le temps, les gens choisiront. De toute façon, il y a un principe simple, c'est que c'est une structure. Les gens se connaissent après, dans le temps. On y indique des délais. Par exemple, à 5 ans, il y a une obligation de revoyure, entre guillemets. C'est-à-dire que chacun se met autour de la table en disant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sépare du bien? Qui veut sortir? Qui veut rester? Voilà. Pour que ça oblige pas chaque personne à rester totalement dedans.
Justement, qu'est-ce qui se passe à la sortie, entre guillemets? C'est-à-dire, si à un moment, l'un des 4 dit, moi, je veux sortir. Et puis que les 3 disent, nous, on ne veut pas racheter. Ou en tout cas, on n'a pas les moyens de racheter.
Alors, je vous dirais qu'un peu, c'est un peu comme une FCPI. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des titres d'une structure qui porte un bien. Vous les mettez à la vente. Les 3 autres ont un droit de préférence. Le principe, c'est que, à la rigueur, s'ils sont 4 et que demain, il y en a un qui veut sortir et que les 3 autres ont les moyens, ils peuvent reprendre nos besoins de crédit, se retrouver à 3. Donc, petit à petit, dans le temps, en plus, ils augmentent leur valeur patrimoniale.
Mais s'ils ne veulent pas, vous espérez un marché secondaire
Il y a un marché secondaire pour l'indivision. Il y a un marché secondaire. En fait, c'est ce dont j'évoquais, c'est comme la FCPI. Il y a un marché pour tout, de toute façon. L'essentiel, c'est d'avoir un emplacement de qualité et du rendement.
Juste un mot, avant de clore l'opération, parce qu'on verra ce qui se passe quand on veut vendre, quand on veut sortir. Au quotidien, la fiscalité, elle ressemble à quoi? Parce que il y a éventuellement de l'IFI.
Il y a une fiscalité particulière. Donc c'est du loueur meublé non professionnel, donc ça veut dire que vous avez une transparence fiscale. D'accord. Donc ça veut dire qu'aussi en termes de plus-value, vous n'êtes pas assujetti en tant que professionnel, mais en tant que particulier. Donc c'est très avantageux ce système-là, parce que ça n'obère pas l'avantage fiscal du particulier. Ça ne lui change pas son régime. Donc c'est très intéressant.
Une fois qu'on veut sortir, donc admettons, on revend les parts, ceci, cela. Là aussi, il y a de la plus-value, il y a comment on fait
Vous avez toujours les principes des 17 et des 19%, enfin les impacts traditionnels, comme toute vente traditionnelle. Mais l'avantage, c'est que vous avez un point très intéressant, c'est que ça vous permet quand même de rester dans du loueur meublé non professionnel, qui est quand même aujourd'hui un des avantages fiscaux les plus extraordinaires. Mmh. Voilà. C'est surtout ça, je dirais. Sur un emplacement prime.
C'est un système qui est répandu, qui existe déjà, ou on défriche un peu ?
On défriche. Alors, on va dire qu'on a déjà élagué. On n'est pas encore au terrain de golf. Voilà, c'est pas encore un green. C'est pas parfait, mais nous, en tout cas, on le lance parce qu'on y croit. On y croit en fait terriblement parce que on a de plus en plus de remarques de gens qui nous disent moi, je veux être là, mais j'ai pas le budget de le faire et je veux pas acheter de la pierre papier pour autant. Et donc, le mix des deux, on s'est dit à un moment donné, c'est la même chose.
Vous démarrez sur du prime, mais ça veut dire que, avant d'en arriver, ou une fois que vous en serez arrivé au terrain de golf, là, au green bien, ouais, bien lisse, vous vous dites, après tout, on pourra le dupliquer aussi en descendant la valeur, ou ça ne peut fonctionner, entre guillemets, que sur du prime, parce que j'ai envie de dire, en fait, tel ou tel investisseur, il peut très bien se dire, moi, j'ai que 50 000 balles, mais je veux quand même aussi de la vraie pierre. Alors, et ce système, il m'intéresse, mais pas avec 1 million, avec 200 000. Ou...
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, sur un budget, par exemple, à 300 000, si vous commencez à envisager de faire à 4, il ne reste plus que 75 à porter chacun, et si chacun y met 10 à 15 % d'apport, il ne reste plus que 7. Enfin, on peut aller extrêmement loin dans la démarche. Ouais. Et ça peut extrêmement bien fonctionner. Nous, pour le moment, on a fait un choix, c'est de se dire, on va aller sur les produits prime parce que on sait qu'on a de la demande là-dessus. On a une autre réflexion, c'est la montagne.
Eh oui.
Le timeshare, il existe. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je ne fais pas de l'indivision, du locatif, et en plus, garder quelques semaines? Ça existe.
Christophe Capelli qui nous emmenait dans ce monde de l'indivision et de la VFA. Merci Christophe.
Merci beaucoup.
Pour le groupe Capelli. Dans un instant, un détour par les marchés. On retrouvera comme chaque jour nos traders à cette heure-ci. On aperçoit notamment Jean-Louis Cussac qui nous attend chez Perceval Finance Conseil. Il sera aux côtés d'Alexandre Baradez. Le marché qui hésite encore une fois sur la conduite à tenir. N'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent sur notre site.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Chaque matin à 10h30, vous en avez l'habitude si vous nous rejoignez chaque jour. Ce sont deux traders qui lisent pour vous graphiquement la séance du jour. On retrouve, comme chaque jour, depuis Perceval Finance Conseil, Jean-Louis Cussac, en duplex depuis ses bureaux bordelais. Bonjour Jean-Louis. Et Alexandre Baradez, en ligne depuis IG. Bonjour Alexandre. Merci à tous les deux d'être présents au rendez-vous. Alexandre, comment jugez-vous ce marché? Quels sont un petit peu les repères que vous pouvez nous donner? On a un peu l'impression que chaque matin, quand on se retrouve vers 10h30, on est là, en train d'hésiter, un peu entre deux eaux, un coup dans le vert, un coup dans le rouge, et c'est encore le cas ce matin.
Oui, c'est un marché qui est hésitant, mais qui est plutôt dans une phase, qui est la phase un peu attendue, à savoir une phase un peu plus latérale. C'est-à-dire que quand vous regardez la pente du rallye qui s'était dessiné entre octobre et novembre, il y avait une pente qui était quand même très très régulière en fait, très cadencée avec des phases d'accélération, des retracements, puis des accélérations, et tout ceci dans une phase de canal très très régulier. Et quand vous regardez la pente finalement des trois dernières semaines, on a une pente qui est moins inclinée, c'est-à-dire qu'on a un momentum qui est plus faible, ça monte toujours, mais un momentum qui est plus faible, et là, ces dernières heures, on est même venu challenger les derniers points de retracement du CAC de fin novembre. Donc en fait, on est en train de taper un petit support là, dans la zone des 6650, 60, et c'est un peu la zone support court terme. Et on voit que côté US, on a également des indices un peu dans leur composition, un peu similaire au CAC, type Dow Jones par exemple, avec des valeurs plutôt cycliques. Le Dow Jones qui lui également a effectué des mouvements de retracement un peu technique. Il revient chercher des anciennes obliques résistances qui deviennent désormais un petit peu des supports qui sont mis à l'épreuve actuellement. Et puis on voit que la volatilité américaine aussi est repartie un peu à la hausse. On était retombé sous les 20 il y a quelques jours. On est remonté à 22, un peu au-delà de 22 sur le VIX par exemple. Donc c'est une hausse de 10% de la volatilité. C'est pas dramatique du tout, mais c'est ce qu'on voulait voir en fait. On se disait que sous les 20, c'était un peu trop, même pour la partie européenne, c'était peut-être un petit peu trop complaisant par rapport, non pas qu'il y ait un risque massif, mais un peu trop complaisant par rapport à la vitesse de reprise des marchés. Donc ça participe d'une consolidation, ce qui est très bien. La question maintenant en intraday, il y a aussi le ralentissement chinois qui est à l'œuvre. On a des statistiques, on voit que le pétrole est tombé sur des points bas depuis décembre 2021. Donc, tout ceci, c'est vraiment attribuable à ce sentiment de momentum mondial qui est en train de ralentir. Pas de se cracher, mais en train de ralentir. Et donc, les indices sont en train de presser un peu ça, ce qui est plutôt sain. On voit que c'est vraiment une empreinte macro qui fait bouger les indices et qui les oblige à consolider. Là, ce qu'on va surveiller dans la journée, c'est si on voit que ce CAC commence à lâcher un peu sous 6650, sous 6640, on
pourrait aller chercher des zones. Il y avait un ancien gap qui n'est pas énorme, qui s'était formé à la mi-novembre et qui se trouve un petit peu sous les 6600, qui se trouve dans la zone 6570. Oui, c'est pas des zones très très lointaines, mais si en gros le CAC passe sous 6650, derrière il pourrait y avoir des phases un peu retraçantes de 70 points, 80 points de plus pour aller chercher par exemple à combler ces gaps. Tous les gaps haussiers ne sont pas comblés. Hein. Autant les baissiers, vu que les marchés ne font que monter d'un point de vue long terme, il n'y a pas de souci pour les combler. Certains gaps haussiers ne sont jamais revus. Là, c'est juste dans l'hypothèse de cette consolidation qui se poursuivra encore un peu. Donc voilà, c'est ce qu'on cherchera toujours, exploiter dans ce momentum mondial un peu ralentissant, où les indices prennent un peu leur gain. Les investisseurs sont un peu prudents, on voit la vol qui monte un peu. Bah, si dans ce contexte, on bascule légèrement sous 6650, je pense que derrière, le marché peut lâcher, voilà, sans être trop agressif, mais il peut lâcher entre 70 et 100 points de plus pour trouver les gaps et les petits supports précédents.
Voilà la lecture proposée par Alexandre Baradez. Jean-Louis Cussac, comment voyez-vous ce marché qui manque visiblement de catalyseurs ?
Ah ben votre impression est la bonne, Cédric. Hein, ce marché, il talonne, si vous voulez. Il devrait baisser, mais il baisse pas. C'est comme, vous savez, le bateau qui est sur l'eau, il devrait rentrer plus profondément sous l'eau, mais comme il y a le sable en dessous, il talonne. C'est l'expression adaptée que je cherchais hier, d'ailleurs. Et on se demande ce qui fait que ce marché reste comme ça, extrêmement résilient. Mais bon, il faut faire avec. Tous les jours, je vous répète la même chose. Tous les jours, j'achète sur des replis. Et tous les jours, ça fonctionne. On peut pas dire le contraire. Le marché, dès qu'il arrive dans une zone, là, ça dépend d'où on vient. Mais ce matin, on s'est positionné vers 61, 41, 6661, 41. Et puis, on essaye de faire un maximum de mouvements. Mais on le fait systématiquement. Alors, de plus en plus, peut-être prudemment, en se couvrant parfois avec des options. D'ailleurs, on peut acheter des options sur un mois ou deux mois, hein, et c'est pas un problème. La volatilité implicite avait rebaissé vers 15, là, elle est remontée à 17,5, 18. Donc, vous voyez, dès qu'on a un petit peu de tension, il y a cette vol qui remonte, même si Pékin, a annoncé de nouveaux allègements sur les restrictions sanitaires. Les marchés restent dans l'attente. Alors, c'est vrai, la semaine prochaine, la Fed, etc., la Banque Centrale Européenne, les banquiers centraux, en fait, sont au centre de l'intérêt. Il n'y a pas de changement. Et on le répète, les marchés ont anticipé beaucoup de choses positives. Est-ce qu'ils vont pas être déçus la semaine prochaine de ce qu'ils vont entendre? C'est la question. Donc tout dépend de cela. Les avis sont divergents. Certains pensent qu'ils seront déçus, d'autres pensent qu'ils feront tout pour ne pas faire peur. Et on est dans un environnement qui bouge pas vraiment. Les attentes restent identiques, les problèmes restent identiques et ils sont pas solutionnés. On est toujours dans une zone de rebond maximum, c'est-à-dire que tant que le marché ne s'affaiblit pas, il peut pas du tout, même des mini effets dominos ne se déclenchent pas. Et on est toujours dans une zone de rebond, de probabilité de rebond maximum. Quand je vous dis, par exemple, jusqu'à 6640, le marché conserve un maximum de chances de rebondir dans la journée. Eh ben voilà, vous l'avez vraiment vu tous ces derniers jours. Ça fait un bout de temps que ça dure. Et c'est la difficulté d'ailleurs d'un trader, c'est d'être systématique, de tous les jours recommencer la même chose. À chaque fois, on se dit évidemment, oui, il y a peut-être tout pour que le marché reperde un petit peu de terrain, hein, comme le disait Alexandre. C'est normal, c'est quelque chose qu'on a tous en tête. N'empêche qu'on le fait. On le fait et ça fonctionne. Donc on continue. Et l'euro-dollar, lui, reste aussi extrêmement hésitant. Il se balade autour de 1,05, mais un cran au-dessus des niveaux qu'on avait connus il y a quelques semaines. Donc, franchement, il n'y a pas de changement majeur. Et là, je crains qu'on reste dans l'attente, en effet, du CPI et donc des réunions des banques centrales la semaine prochaine. Donc, peut-être qu'on peut imaginer, à toute chose égale par ailleurs, un marché un peu en roue libre jusque-là. Et en tout cas, pour terminer la semaine, peut-être sans grand changement. Il n'y a pas trop de menaces. Donc, on essaye toujours d'acheter sur des petits replis. Et sinon, la tendance de fond haussière n'est toujours pas infirmée.
Merci beaucoup à tous les deux, nos deux traders du jour, Jean-Louis Cussac, Alexandre Baradez. Jean-Louis, on vous retrouve tout à l'heure à 11h30 pour suivre la séance du jour. Le marché parisien, on le rappelle, se veut très hésitant, un plus 0,17 pour le moment, 6671 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Ça n'a duré que 59 minutes hier. Bernard Arnault est redevenu l'homme le plus riche du monde devant Elon Musk. C'est le résultat du classement en temps réel réalisé par Forbes. Que s'est-il passé?
Ben, c'est pas Bernard Arnault qui s'est enrichi, mais Elon Musk qui s'est appauvri, on va dire appauvri entre guillemets. La fortune de tous ces milliardaires, elle est essentiellement composée d'actions cotées qu'ils possèdent dans leur entreprise. Or, l'action Tesla est quand même sacrément malmenée depuis quelques temps. Hier, elle perdait 3,2% en clôture à Wall Street. Et l'action Tesla, c'est la fortune d'Elon Musk. Ce qui fait qu'effectivement, eh bien, Bernard Arnault, pendant un peu moins d'une heure, s'est retrouvé première fortune du monde. Il devançait Elon Musk de 400 millions de dollars. Il avait donc 185,1 milliards de dollars. Et Elon Musk était juste un peu en dessous à 400 millions. Puis, fin de journée, les choses se sont inversées. Elon Musk a retrouvé sa première place dans le classement.
Bon, tout ça illustre en fait le fait que ces grandes fortunes, vous l'avez rappelé avec l'actionnariat, ont un côté un peu aléatoire, momentané, oui, du fait des évolutions boursières.
Exactement, mais on utilise souvent le mot virtuel. Il y a un très bon exemple récemment. On a parlé ici de la chute de la plateforme de crypto FTX. Son fondateur a été présenté comme un entrepreneur génial. Eh ben, la chute de FTX, ça fait que sa fortune est passée de 15 milliards de dollars à zéro. Alors, donc il était milliardaire. Alors bon, il a peut-être des placements personnels en immobilier, j'en sais rien, mais enfin voilà, le gros de sa fortune c'était FTX, c'est terminé. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Les actionnaires de Tesla sont un peu inquiets quand même depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter. D'abord parce qu'il se trouve qu'il lui consacre beaucoup de temps à Twitter, et donc forcément moins à la construction de voitures électriques, qui est quand même là un business un petit peu plus solide. Puis il a quand même mis 44 milliards de dollars pour racheter un réseau social célébrissime, mais qui n'a jamais rapporté un rond. Même pas oublier que ça ne gagne pas d'argent. Donc en fait, l'action Tesla est très mal menée. Et à cela s'ajoute quand même ce recul généralisé du monde de la tech aux États-Unis, notamment des GAFA à part Apple, hein, qui fait qu'on garde la 400 millions d'écart entre Musk et Arnault dans la journée d'hier. Oui, mais depuis le début de l'année, la fortune d'Elon Musk, elle a fondu de 100 milliards de dollars. Et derrière, on trouve celle de Mark Zuckerberg, qui, à cause de l'atterrissage un peu violent du secteur de la tech, a fondu de 80 milliards de dollars. Je précise qu'il y a une autre étude, en temps réel, réalisée par Bloomberg, qui ne prend pas exactement les mêmes paramètres, qui ne regarde pas notamment ce que la famille de Bernard Arnault possède, mais uniquement lui, en tant que dirigeant de LVMH. Mmh. Et là, Elon Musk est quand même encore très largement devant quand on regarde les chiffres de Bloomberg, avec 179 milliards de dollars, contre 165 pour le français.
Bon, en tout cas, en dehors de l'anecdote du marché boursier, cette histoire confirme la très belle réussite d'LVMH.
Absolument, c'est une réussite que l'on doit très largement d'ailleurs à Bernard Arnault, pas exclusivement. Hein. Enfin, c'est un fleuron mondial du luxe qui édite tous les mois 150 000 bulletins de salaire, qui est l'un des premiers contributeurs à l'impôt sur les sociétés et qui est dans le secteur moteur par excellence du commerce extérieur de la France. On peut rajouter bien sûr Kering, L'Oréal et Hermès, hein, c'est le carré magique du luxe. On a quoi en France qui fonctionne bien? Le luxe, l'aéronautique, l'agroalimentaire. On avait l'énergie, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Et donc on manque de fleurons, on manque de champions tricolores. Et justement, il y a un élément d'explication dans une note qui a été publiée par Fipeco.fr qui constate que la France a aujourd'hui le quasi-record d'Europe des prélèvements obligatoires sur les entreprises. La Suède est devant nous. Prélèvements obligatoires, donc tout ce qui est fiscal, mais tout ce qui est aussi social, en net, hein. Quand on a déduit l'ensemble des aides, des exonérations, des crédits d'impôt, le taux de prélèvement obligatoire sur les entreprises françaises est à 10,2% du PIB. Ça veut dire qu'en net, elles versent en cotisations et en impôts 245 milliards d'euros tous les ans. Et puis on a aussi eu hier une communication de l'INSEE, je trouve que c'est à mettre en regard de cette histoire de richesse, qui déplore que les PME en France ne grandissent pas et qu'elles, quasiment toutes, finissent rachetées. En fait, vous regardez, on n'a aucun exemple récent d'une PME, donc c'est jusqu'à 250 salariés, qui soit devenue une ETI, 250 à 5000 salariés. Et de la même manière, quand vous regardez les champions français, ils ont quoi? Ils ont tous minimum 50 ans, voire 100 ans. On n'est pas aux États-Unis où on a aujourd'hui des entreprises absolument incroyables qui, pour certaines d'entre elles, ont à peine 10 ans. Alors je me suis demandé les raisons qui pouvaient expliquer la difficulté de nos entreprises à grandir. Enfin, la taille, ce n'est pas forcément le Graal pour une entreprise. D'ailleurs, le fait qu'elles ne grandissent pas, c'est qu'elles n'ont pas la croissance qu'elles mériteraient d'avoir ou qu'elles devraient avoir. Parmi les explications qui me sont venues, il y a le manque de moyens financiers. C'est un canal de financement quasiment exclusivement bancaire en France. Il n'y a pratiquement pas de financement d'entreprise par le marché. C'est quand même une raison absolument essentielle qui qui fait que les moyens financiers manquent. Il y a l'environnement réglementaire dont on a souvent parlé, qui est totalement étouffant. Le poids des prélèvements obligatoires, on vient d'en parler, mais l'ISF qui a aussi sa part de responsabilité, l'histoire des compétences, de l'adéquation de la formation des jeunes avec les besoins des entreprises. Et puis on a des trucs très français, notre rapport à l'argent, qui est quand même assez difficile, et aussi notre rapport à l'échec, qui n'est pas le même qu'aux États-Unis. D'ailleurs, je retiens une excellente réforme, peut-être la meilleure réforme des 15 dernières années, signée François Hollande. Un jour, il a décidé qu'il supprimait le fichier 040 de la Banque de France. C'est le fichier dans lequel, quand vous êtes un entrepreneur et que vous avez planté une boîte, vous êtes marqué au fer rouge. Tant qu'il y avait le 0,40, il n'y avait plus aucun banquier qui allait vous prêter un sou. Maintenant, il n'y a plus le 0,40, ça laisse une deuxième chance.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le CAC reprend quelques couleurs. Plus 0,25%, 6677 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Pour investir dans le vin, faut-il prendre en compte les critères environnementaux ? Bonjour Angélique de Langsin.
Bonjour Cédric.
Pour Ideal Wine, alors régulièrement on vous retrouve et on ausculte tous les grands crus, les différents vignobles, on regarde un petit peu ce qui se passe dans les domaines, dans les régions. Aujourd'hui, on va donc aborder un sujet un peu plus transversal, celui de ces critères environnementaux. Est-ce que selon vous, ils sont déterminants dans les choix qui sont effectués par les amateurs de vin?
Je dirais que c'est pas encore un diktat, mais c'est quand même un mouvement qui est en train de qui évolue doucement, peut-être plus doucement que dans d'autres domaines comme le domaine financier où il y a vraiment des critères qui sont imposés maintenant. C'est un point que nous suivons et effectivement l'été dernier, cet été caniculaire qui a été le deuxième été le plus chaud enregistré par Météo France depuis 1900, hein, deuxième été après 2003, ça a été pour nous un déclencheur et on a interrogé effectivement les amateurs pour savoir si ces dérèglements climatiques avaient désormais une influence sur leur choix.
Quel est leur profil à ceux que vous avez interrogé ?
Alors, le profil, en fait, l'Institut SoWine avait enquêté et 47% des Français aujourd'hui se disent amateurs éclairés. Donc clairement, on est dans ce profil-là. Nos répondants ont une moyenne d'âge de 49 ans, ce qui les rapproche un petit peu des investisseurs financiers d'ailleurs. Et surtout, ça indique qu'ils ont une dimension patrimoniale qui rentre en ligne de compte dans l'expression de leur choix.
Considérations environnementales, on va dire, elles ne sont pas complètement nouvelles. Dans le monde du vin, il y avait le bio quand même déjà.
Oui, c'est vrai que c'est un point d'ailleurs que nous, chez Ideal Wine, nous suivons depuis l'origine de la société en 2000, hein, qui nous a toujours animés et passionnés. Et c'est vrai d'ailleurs que les agriculteurs et les viticulteurs sont au premier plan dans cette confrontation au dérèglement climatique. Donc, eux font évoluer leur méthode de travail depuis très longtemps, et particulièrement dans les vignobles méridionaux. Alors, chez nous, chez Ideal Wine, sur la partie de distribution en direct des domaines, sur les 850 domaines qui sont partenaires de notre réseau, il y en a près de la moitié qui sont certifiés en bio ou en biodynamie, et tous les autres travaillent de façon raisonnée, avec une conscience très haute des sujets environnementaux.
Et aujourd'hui, les amateurs plébiscite vraiment le bio comme une réponse à ces questions climatiques?
Alors disons que ça n'a pas forcément été émis comme une réponse, mais c'est un choix qui est effectué de longue date par un certain nombre d'entre eux. Et dans l'étude que nous avons menée, dans l'enquête, 32% indiquent désormais le site comme critère prioritaire dans leur choix futur de choisir des domaines qui sont certifiés soit en bio, soit en biodynamie. Et certains vont même jusqu'au vin nature.
Donc, les caves des amateurs vont se transformer en profondeur ?
Alors, c'est pas encore
à l'avenir.
C'est pas encore une révolution, je dirais. 60% d'entre eux indiquent que pour l'instant, ne pas modifier fondamentalement l'équilibre de leur cave, ce qui laisse quand même 29% qui dit se mettre à changer, et 11% qui n'a pas encore une cave suffisamment constituée pour procéder à des arbitrages.
Cela étant dit, pour vous, c'est éventuellement un problème, parce que vous vendez aussi des vins anciens qui ne sont donc pas ou qui ne sont pas bio. Vous pensez quoi? Que les amateurs vont finir par rajeunir leur cave en se disant celui-là, j'en veux pas parce qu'à l'époque il n'était pas bio et je veux plus que des productions récentes qui ont le petit logo vert. Hein.
Alors c'est vrai que c'est une question que nous leur avons posée et nous avons été très rassurés parce que finalement.
Pas fou, hein. Je veux l'être bio, mais enfin.
Non, alors en fait, c'est pas uniquement le bio qui était le sujet derrière tout ça, mais on a constaté que les trois quarts des réponses répondants, 74%, plébiscitent les vins anciens, pour deux raisons. D'une part, vous en avez un certain nombre qui achètent à la fois des vins, des millésimes matures, et du même domaine, les toutes dernières années, pour pouvoir comparer. Et puis, vous avez d'autres amateurs qui souhaitent pouvoir retrouver des équilibres aujourd'hui remis en cause, des équilibres qui ont même carrément disparu pour certains vins, pour pouvoir retrouver le goût d'hier.
Par exemple, les questions de degré d'alcool, de fraîcheur, enfin, d'équilibre, etc. Enfin, c'est tout ça qui est en cause.
Absolument. Alors, c'est vrai que les amateurs notent évidemment une évolution dans le goût des vins. Ce qu'il faut noter, alors une évolution qui va vers plus de richesse, plus d'opulence, parfois des caractères de surmaturité dans certains vins. Mais ce qui est intéressant, c'est que 26% d'entre eux ont noté une amélioration qualitative dans les vins. Il y a quatre points importants. C'est que premier point, effectivement, amélioration qualitative pour certains cépages. Je pense par exemple au Cabernet Franc de Loire, Cabernet Sauvignon du Médoc, Pinot Noir d'Alsace. Et également, d'ailleurs, les amateurs ont noté une plus grande souplesse dans les Pinot Noirs de Bourgogne. Mais là, on atteint peut-être une limite en termes de puissance alcoolique. En revanche, ils ont constaté plus de lourdeur. Et c'est parfois injuste, parce que justement, les vignerons méridionaux travaillent depuis très longtemps ce sujet du réchauffement. Mais plus de lourdeur notée dans certains vins de Châteauneuf-du-Pape ou de Vaqueras, dans certains chardonnays de Bourgogne, notamment à Chablis, ou dans certains vignobles étrangers comme l'Espagne, même le Valais en Suisse ou le Prosecco.
Et il y a des questions de degré d'alcool ?
Oui, alors ça c'est un point effectivement qui revient beaucoup dans les commentaires des amateurs. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un point que les gens regardent sans que ce soit forcément extrêmement discriminant. Seuls 17% d'entre eux refusent les vins trop lourd. Mais ce sont des signaux d'alerte pour des régions réputées produire des vins frais et légers comme le Beaujolais, par exemple, qui voient son degré alcoolique augmenter.
Bon, on a beaucoup parlé du bio. En finance, on parle d'ESG. On va devoir avoir des vins ESG ?
Alors, c'est un point, effectivement, sur lequel nous avons interrogé les amateurs, parce que, comme vous le savez, le verre est ce qui pèse le plus lourd dans le bilan carbone d'une entreprise viticole aujourd'hui. Donc, savoir si pour les amateurs, ça devient un critère déterminant de choisir des vins qui sont produits dans des bouteilles moins lourdes, avec des emballages plus écologiques, ou en privilégiant les circuits courts, ce qui amènerait d'ailleurs à privilégier les vins français au détriment de vins qui arrivent du bout du monde. Finalement, pour l'instant, seulement 38,5% des amateurs disent considérer ça comme un critère déterminant. Mais ce qui est certain, c'est que dans le contexte inflationniste que l'on connaît, c'est nécessairement un critère qui va être regardé de plus en plus près au cours des mois à venir.
Sinon, on prend le vin directement en barrique. C'est une question de volume, non ? Bon, justement, est-ce que les amateurs, ils sont prêts à payer plus cher pour avoir un vin plus écologique?
Alors justement, oui, c'est effectivement. Alors, les amateurs se répartissent en trois tiers, grosso modo. Vous avez un gros tiers, 36,4%, qui pense pouvoir trouver, sans modifier son budget, des vins produits de façon durable, quitte à changer de région. Bon. Un deuxième tiers qui va accepter 10% maximum de hausse de prix et 31% restant qui jugera sur pièce en fonction de l'importance des changements introduits. Ce qui nécessite de la part, ce qui va nécessiter de la part des producteurs, des vignerons, à la fois de s'adapter, de continuer à modifier leur méthode, mais aussi de communiquer.
Ouais, c'est ça.
En revanche, ce qui est certain, c'est qu'à terme, dans la cave des grands amateurs, vous aurez essentiellement des vins qui sont produits dans le plus grand respect de l'environnement. Donc c'est un critère qui va être regardé de plus en plus près.
Merci Angélique. Angélique de Langsin et Ideal Wine qui nous accompagnent très régulièrement. Tout de suite un coup d'œil sur le marché avant d'accueillir Jean-François Filiatre.
Retrouvez votre rendez-vous avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974 et à vos côtés en France depuis 2007.
Le marché parisien, plus 0,25, 6677 points. Du côté des places européennes, c'est un peu pareil. On a opté pour le vert, il est encore un peu clair, plus 0,08%. Du côté des principaux arbitrages à la hausse, du Total Energy, de l'Airbus et du Thales, à la baisse de l'Eurofins, de l'Orange et du Bouygues. Du côté des devises, l'Eurodoll est à 1,0492.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et comme promis, Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François.
Bonjour Cédric.
Pour Marché Gagnant, votre sujet cette semaine.
Eh bien, la semaine dernière, je vous avais proposé une chronique en mode l'équipe pour savoir comment piloter son
tout
patrimoine, comme si on était sélectionneur d'une équipe de foot. Eh bien, cette semaine, je vais passer en mode closer. Ah. Voici, il va être question de couple, certains que je trouve glamour et d'autres que je trouve has-been.
Il y a un événement qui vous a amené à cette réflexion ?
Un événement ultra sexy. Lundi se tenait la conférence annuelle de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le gendarme de la banque et de l'assurance.
Ah ouais.
Alors, le gendarme a montré du doigt les assureurs vie sur leur comportement en termes de frais. Je vais reprendre les propos de Jean-Paul Faugère, qui est le vice-président de la CPR. Il nous dit quoi? Il nous dit sur les frais en assurance vie, je rappelle tout d'abord que j'avais dit à la précédente conférence de la CPR il y a un an, je soulignais l'actualité du sujet, la nécessité de progrès supplémentaires dans la transparence et l'utilité d'un rapprochement entre le rendement et le niveau des frais. Les professionnels avaient été invités à réfléchir. Et voilà la conclusion. Force est de reconnaître une sorte de décalage entre l'attente que nous avions exprimée avec le président de la CPR et les résultats à ce jour. Alors, puisque le compte n'y est pas, puisqu'a priori, le gendarme ne parle qu'aux assureurs et pas aux épargnants, on va donc s'intéresser à ce couple que j'adore, le couple rendement frais.
C'est pas rendement risque.
Non, le rendement de risque, je l'aime pas, mais on y viendra plus tard.
Bon, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce nouveau couple rendement frais?
Premier constat, c'est le mariage des antithèses. D'un côté, le rendement, généralement incertain. Pourquoi? Parce que nul ne connaît les performances à venir des marchés boursiers, ni des contrats d'assurance vie, ni même du taux du livret A. Le seul placement en fait sur lequel on a de la visibilité un peu, c'est le plan d'épargne logement. Mais chut, faut pas en parler parce qu'il coûte trop cher aux banques. Donc, le rendement, il est volatile ou volage. Je vous laisse choisir le mot qui vous fait plaisir. A contrario, les frais, eux, ils sont droits dans leurs bottes, absolument certains. Je vous propose donc de nous intéresser à la vie privée de ce membre du couple.
Avec des informations croustillantes.
Chut, ne le répétez pas. Mais de temps en temps, les frais disent être nuls. Alors, ne vous y trompez pas, c'est de la pure vantardise, comme certains termes dans les agences, dans les annonces immobilières. Un placement sans frais, ça n'existe pas. Vous vous faites toujours ponctionner quelque part.
Seriez-vous en train de nous dire que le personnage des frais est un peu trouble et qu'il manque de transparence?
Alors ça, il n'y a strictement aucun doute. En fait, dans la finance, comme d'ailleurs partout, la chaîne de valeur, elle a été très largement segmentée. Vous avez par exemple le distributeur, vous avez le gestionnaire, pour ne citer que les principaux. Alors, vous pourriez croire, par exemple, que les frais à la souscription rémunèrent la distribution et le conseil, s'il y en a, et les frais de gestion, le gestionnaire. Alors, ce serait trop simple. En fait, via les rétrocessions, les frais de distribution et de gestion sont mélangés. Alors, c'est vrai, on a inventé plein de réglementations pour essayer de faire preuve de transparence, mais comme tout est dans tout et inversement, eh bien, tant qu'on n'a pas organisé une formation certifiante des épargnants à Polytechnique des frais, ils n'y comprendront rien.
Bon, Jean-François, vous filez la métaphore personnelle, la vie de couple, mais je vais être un peu provoque à votre place. Est-ce normal que les autorités s'en occupent? Est-ce que ce n'est pas intrusif dans la vie des sociétés?
Eh bien, c'est marrant votre remarque, parce que c'est un vrai sujet, avec des réponses en fait différentes selon les acteurs. Le politique, il est visuellement intrusif. En témoigne, par exemple, le plafonnement des frais dans certains univers, je pense notamment à l'univers bancaire, je pense sur les transferts en épargne retraite, ou je pense au plan d'épargne en action. Mais là, on voit bien qu'on fait de la politique et de l'image. Pourquoi? Parce que souvent, les acteurs qui sont sanctionnés par le plafond sont peu nombreux, et le plafond est souvent l'occasion pour certaines sociétés d'augmenter leurs frais pour arriver au plafond.
Alors, la position des superviseurs, genre ACPR pour l'assurance vie ou AMF pour les produits financiers, est-ce qu'elle, elle est différente?
Oui, sur le sujet, ils ont traditionnellement été frileux, et là, on voit une évolution qui est quelque part résumée par Jean-Paul Faugère lors de la conférence de l'ACPR. Il nous dit quoi? L'accumulation de frais élevés peut, dans certains cas, amputer toute espérance de rendement, alors que le retour sur investissement ne bénéficie finalement qu'aux intermédiaires financiers. Bref, pour schématiser, les superviseurs disent la pratique des frais libres, ça c'est le marché, mais dans certains cas, les épargnants ne sont plus protégés parce que leur espérance de gain devient nulle, et là, ils considèrent qu'ils doivent agir.
J'imagine que sur le papier, vous jugez que c'est une bonne nouvelle?
Une bonne nouvelle, mais tardive. La CPF vient de bouger. L'AMF l'avait fait il y a de cela quelques temps, en pointant du doigt les fonds qui annoncent vouloir faire mieux qu'un indice, mais qui en pratique de gestion collent à l'indice et prennent des frais trop élevés. Donc, on sait dès l'origine, qui ne pourront jamais faire mieux que l'indice.
Pourquoi vous dites tardive ?
Parce que notamment en assurance-vie, on a laissé faire un certain nombre de choses qui n'étaient pas franchement bien et qui, quelque part, ont contribué à l'approche et à la conception de la méthode de gestion de marché gagnant. Et je rappelle, c'était il y a 10 ans. On dit qu'il faut avoir des patrimoines diversifiés. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, il faut avoir des taux et des actions. Question, faut-il les avoir, les taux et les actions, ensemble, dans un même produit ou séparément ? Est-ce que je vous ai jamais dit sur ce plateau, tiens, prenons un fonds diversifié, 50% actions, 50% taux, quelle est mon espérance de gain ? 0 sur les taux, 5% sur les actions, donc mon espérance de gain moyen, c'est 2,5. Là-dessus, je vais avoir 2% de frais de gestion sur le fonds, plus 1% sur le frais de mon contrat d'assurance-vie, donc mon espérance de gain, c'est 0,5%, et je disais toujours, moi, je joue pas. D'où la recommandation de marché gagnant, d'un côté, on prend des produits taux, avec des frais faibles, de l'autre, on met des actions, et en termes de frais au global, ça vous coûtera beaucoup moins cher.
D'où vient ce changement de stratégie pour de la part des superviseurs ?
L'Europe, aujourd'hui, est en fait posée la question de ce que j'appelais hier le partage de la valeur entre l'industrie financière et le client. Alors, a priori, mon wording était trop syndical pour accrocher. Alors, en Europe, désormais, ils parlent de « value for money ». Je traduirai pour Choupinette, est-ce que t'en as pour ton fric ? Et ça, c'est une excellente question.
Bon, ce couple rendement-risque que vous avez brocardé au début, lui, vous ne l'aimez pas.
Bon, on va être honnête, le personnage du rendement est aussi trouble que celui des frais. À l'école, on apprend que le rendement, ça repose sur un revenu. Le rendement d'un terrain agricole, clin d'œil à Angélique, le rendement d'une vigne où vous savez combien vous sortez d'hectolitres par rapport à votre nombre d'hectares, le rendement d'un bien locatif, quel est par exemple le rendement d'un once d'or qui ne rapporte rien. On a en fait traduit le return anglais qui correspond à de la performance globale par notre réducteur rendement, ce qui prouve quelque part un peu qu'on est un pays de rentiers.
Alors, au-delà de cette critique linguistique, on vous sent toujours prêt à vous attacher aux mots.
Ouais, mais c'est vachement important si on veut arriver à se comprendre. Alors, si vous, les mots vous gênent, je vais vous parler d'image. Derrière le couple rendement de risque, il y a l'image que vous, plus vous prenez de risque, plus votre rendement sera élevé. Pardon, mais cette image-là, ça vaut à peu près la photo officielle de Charles et Diana quand j'étais gamin. C'est pas très crédible. On va prendre un exemple cette année. Le livret A a totalement garantie, rapportera plus que le fonds en euros qui offre une garantie inférieure.
Allez, on conclut ?
Allez, il faut faire de l'éducation et de l'information sur les frais. Vous savez, tous les ans, je dis, il faut faire tous les ans comme si on était soumis à l'ISF, ouais, pour regarder ses placements. À cette occasion, on pourrait rajouter le niveau des frais. L'autre sujet, c'est évidemment le niveau du risque. La pédagogie du risque est totalement insuffisante. Chez Marché Gagnant, vous le savez, c'est au cœur de notre réflexion. La question, c'est pas combien je vais gagner, c'est combien je peux perdre. Et pourquoi on le s'appose ? Pour être prêt, lorsque ça survient, de prendre les bonnes décisions. Et en fait, ce que je vous dis ça, cette gestion du risque, ça vaut pour l'approche patrimoniale. Et puisque je vous ai parlé de couple, j'ai tendance à dire que quand on se marie, il faut toujours envisager le divorce. Ben, ça évite plein de problèmes, notamment quand on est amené à se séparer et qu'on doit gérer la délicate question du partage des biens immobiliers.
Jean-François Filiatre, qui reste avec nous, vous répondrez tout à l'heure aux questions des auditeurs. Ce sera en toute fin d'émission. N'hésitez pas, quand on parle de frais, à regarder tous les frais, hein, pas juste ceux de souscription ou ceux de sortie. Il y en a au milieu qui sont cachés, notamment dans les unités de compte et autres. Ça peut faire des additions dantesques. Allez, à suivre, un détour sur les marchés, l'œil du stratège, et puis on continue à vous donner un maximum de questions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.